Nous sommes au soir je vous le rappelle, du remaniement gouvernemental, édition spéciale sur France Info avec nos invités que je vous présente. Bonsoir à vous, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique au Figaro. Avec nous également Céline Masse. Bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale associée du cabinet d'études d'Occurrence. À nos côtés également, bienvenue à vous, Sophie de Monton, chef d'entreprise. Vous êtes présidente du mouvement éthique. Avec nous, Pierre Jacquemin, bonsoir Pierre,
bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue Regard. À mes côtés, Romain Mouton.
Bonsoir,
bonsoir Romain, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. Et Arnaud Benedetti, bienvenue Arnaud,
bonsoir.
Spécialiste de la communication politique, professeur associé à la Sorbonne. Voilà donc pour ces présentations. Je commence par vous, Marion Mourgue. Que dire de cette allocution? C'était une sorte de discours de politique générale?
Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y avait plusieurs choses. À la fois sur la forme, une sorte de mea culpa sur son parler vrai, sur le fait qu'il n'avait pas toujours entendu. Il a parlé de dialogue, d'écoute, notamment avec les élus locaux. Par contre, sur le fond, une fermeté totale en soulignant qu'il ne changerait pas de cap, qu'il n'y avait pas de tournant dans sa politique. Donc il y a à la fois l'idée qu'il a entendu les critiques sur son arrogance, qui lui était reprochée, etc. Mais que le cap est le même pour le gouvernement, avec une feuille de route bien définie.
Allez, nous poursuivons ce tour de table. Romain Mouton, d'abord le cadre aussi, également. C'est un président qui... Que diriez-vous de cette mise en scène? Il lit ses notes, d'ailleurs. Hein.
Très particulier, d'ailleurs, c'est ce qui fait le buzz sur Twitter là pendant l'allocution, c'est qu'on a d'abord quand même tous bloqué sur ses notes, gribouillées.
Gribouillées, oui.
Alors, il y a deux choses. Soit ils n'ont pas eu le temps de faire le prompteur habituel qui aurait permis plus de fluidité, un regard fixe pendant toute l'allocution, soit ils ont voulu faire authentique et montrer que le discours et l'allocution venaient de lui personnellement. Il y aura les deux défenseurs certainement de ça, après une lumière un peu sombre, mais sur le fond, pas de grande surprise en fait dans l'allocution d'Emmanuel Macron. On a bien notamment noté le zoom sur les territoires. D'ailleurs, on remarque que les seuls ministres qui ont été promus et l'allocution d'Emmanuel ouais. Macron porte sur les territoires. Les ministres promus de Normandie, le Cornu-Gouraud, c'est sur le pôle territoire. Quand il dit que les maires sont les premiers porteurs de la République, il a fait un appel du pied aux élus locaux.
J'allais vous le dire, appel du pied aux élus locaux, aux maires, qu'il cite également comme ceux sur lesquels il faudrait s'appuyer au sein de la République. Sophie de Menton, commentaire, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette allocution? C'est comme ça qu'on dit, hein?
J'ai été surprise par la gravité et l'aspect présidentiel de son intervention. Récemment, il nous a pas habitués à ça. Donc là, il y avait une espèce de gravité. Il était extrêmement sérieux. On avait l'impression d'ailleurs qu'il se passait quelque chose de grave. On savait pas très bien quoi, mais il y a bien sûr les drames des inondations qu'on connaît. Il a commencé par ça. Alors moi, ce qui m'a étonnée, c'est quelques contradictions. D'une part, il a dit qu'il allait poursuivre, mais poursuivre quoi? Quel est vraiment le projet? Par exemple, je suis très attachée à ça, et il l'a bien dit, qu'il fallait effectivement réformer l'État et une fonction publique performante, ouais. L'air de dire qu'elle l'était pas, mais voilà. Une fonction publique, alors moi j'avais très envie, j'attends qu'il me définisse les missions régaliennes de l'État. Je ne sais plus ce que l'État doit faire et ne pas faire dans un monde libéral, ouvert. Il a été un tout petit peu contradictoire sur le fait que, et je suis d'accord avec ça effectivement, l'Europe cède au nationalisme et aux extrémistes, et pourtant il a repris le mot « nation » plusieurs fois. Donc, « nation », mais pas « nationalisme ». Donc là, j'aurais voulu une explication. Et puis, oui, je suis d'accord avec ce projet, ces réformes qu'il veut mener, qu'il veut amplifier. Mais
vous êtes resté sur votre fin un petit peu, Sophie de Montand.
Je suis restée sur ma faim.
Pierre Jacquemin, ce président dit « je sais qu'il y a de l'impatience et je la partage ». C'est une forme de prise de conscience ce soir, selon vous?
J'en ai pas l'impression. Je reste sur ma faim largement aussi. Je savais qu'on n'allait pas attendre un grand discours de politique générale avec une inflexion de la politique où il allait faire un mea culpa sur les grandes orientations qui sont les siennes jusqu'à maintenant. J'ai entendu aussi un discours assez anxiogène quand même parce qu'il y a eu des mots « je ne suis pas là pour conforter le pouvoir d'achat ». Il n'a pas dit le pouvoir d'achat, mais vous n'aurez pas plus d'argent avec moi. Ouais. Vous, je sais plus ce qu'il dit aussi. Je ne suis pas là pour vous rendre plus heureux. C'est quand même fort.
Je ne vous mentirais pas si je vous disais que demain vous serez plus riche et plus d'argent et plus heureux.
Donc voilà. il y a une forme d'incapacité ou une forme de renoncement de la part de quelqu'un qui est quand même le chef de l'État, qui est censé justement changer et améliorer le quotidien des Français. Et puis il y a eu beaucoup de contradictions. J'ai entendu beaucoup de grandes phrases sur le fait qu'il faut changer notre manière de produire. On a envie de dire chiche, mais dans la politique qui est menée aujourd'hui, on n'a pas vraiment vocation justement à ralentir cette volonté de croissance à tout prix. Sur la question de l'Union européenne, c'est-à-dire effectivement cette dénonciation de la montée des nationalismes, on aurait envie qu'il s'interroge lui-même sur. J'ai fini juste sur sa responsabilité à lui et la responsabilité de l'Europe dans la montée des nationalismes. Et puis une dernière chose, une erreur fatale à mon avis. Il va ouvrir un grand chantier social avec la réforme des retraites, la réforme de la formation professionnelle et bien d'autres encore. Il dit qu'il va tendre l'oreille, qu'il va écouter les élus, les associations, pas un mot sur les syndicats, qui sont les partenaires sociaux, qui sont ceux avec qui il est censé négocier justement les grandes réformes sociales. Et je pense que là, il y a une erreur grave.
On sait qu'il y a un oubli de sa part.
Voilà, c'est plus qu'un oubli. Partenaires sociaux. Depuis le début du quinquennat, on ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup mobilisé pour favoriser le dialogue social.
Allez, tour de table suite avec vous, Céline Mas. Ce président dit « Je n'ai qu'une boussole, la confiance que vous m'avez donnée en mai 2017 ». Vous pensez que c'est un rappel nécessaire ce soir, parce que nous sommes un an et demi plus tard, hein ?
Oui, c'est un rappel nécessaire parce qu'il a perdu près de 40 points quand même dans l'opinion. Il parle d'impatience, on peut peut-être parler de déception, en tout cas telle que les études le montrent. Moi, ce qui me frappe, c'est le classicisme de son discours, qui d'ailleurs est complètement en ligne avec le classicisme et finalement le côté très politique de ce remaniement, on y reviendra. Et il a voulu dire beaucoup de choses dans ce discours. C'est peut-être pour ça qu'on a une impression de flou, parce qu'il y a énormément d'idées très puissantes, hein, la nation, la maîtrise du destin, il le répète plusieurs fois, le contact direct. Une idée qui me semble très intéressante, c'est ne jamais se soumettre, qui est dans l'âme du peuple français, cette idée de révolution, de révolte. Et surtout l'idée de dire, vous aussi, vous avez du pouvoir pour changer votre vie. Je trouve que c'est très frappant dans son discours.
Il dit ne pas se soumettre, et il commence d'ailleurs, par rapport à la soumission, à ce qui relève de la tragédie écologique. Arnaud Benedetti, si on devait ramasser un petit peu ce qu'il faut penser de cette prestation, que diriez-vous ?
Sur la forme, c'est un discours de réparation de l'image, manifestement. Il a entendu le fait qu'on le considérait certainement un peu hautain et arrogant, voire anxiogène, quoi qu'il l'ait été un peu ce soir. Sur le fond, franchement, le logiciel politique reste le même. Hein. C'est un logiciel où on continue les réformes, en tout cas les réformes telles qu'il les pense, avec des efforts qui sont demandés aux Français, avec la volonté de ne pas se soumettre, et avec un regard sur la situation internationale et la situation européenne qui, manifestement, entend lui redonner une épaisseur qu'il avait perdue. Une épaisseur qu'il avait perdue, notamment dans ses séquences avec les Français, un peu parfois à la va-vite. En redonnant une dimension un peu tragique au cours de l'histoire, manifestement, on a un président qui essaye de se recharger quelque part en dimension charismatique.
Allez, on marque une pause, 20h20 sur France Info, le rappel avec vous de l'info, Thomas Bénèche.
Emmanuel Macron face aux Français. Le président de la République s'est exprimé ce soir à la télé, à la radio, après le remaniement du gouvernement dévoilé ce matin. « Je n'ai qu'une boussole », a déclaré le chef de l'État. « C'est la confiance que les Français m'ont donnée en mai 2017 ». Selon le président de la République, le gouvernement est sur la bonne voie et s'est attaqué à la racine des problèmes avant d'annoncer les poursuites des réformes entamées. La Croix-Rouge lance un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés de l'Aude. 150 personnes de l'ONG sont actuellement dans le département. Après les violentes intempéries de la nuit de dimanche à lundi, les fortes pluies tombées dans l'Aude ont fait 12 morts, 9 blessés, 2 disparus. Les enseignants des écoles parisiennes appelés à la grève ce jeudi. Leur mouvement vise à dénoncer l'application de la réforme des rythmes scolaires. Au moins 60 établissements seront fermés selon le SNUIPP-FSU, syndicat du premier degré. L'équipe de France de football rechausse les crampons. Les champions du monde en titre affrontent ce soir l'Allemagne en Ligue des Nations. L'enjeu pour les hommes de Didier Deschamps, conserver la tête de leur groupe. France-Allemagne, coup d'envoi à 20h45. Nouvelle fonction pour Boris Diaw, le capitaine emblématique de l'équipe de France de basket va devenir manager général des Bleus. Sa prise de poste est fixée en janvier prochain.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
La voilà donc, cette édition spéciale remaniement ministériel qui devient soudain une sorte d'édition spéciale allocution du président de la République. C'est ainsi que va l'info désormais. Nous allons réécouter un extrait de l'intervention du président de la République qui explique, eh bien, pourquoi il s'exprime devant les Français.
Je voulais ce soir m'adresser à vous pour vous donner le sens profond de l'action que j'entends poursuivre pour notre pays. Alors que nous venons de recomposer le gouvernement. Ces derniers mois ont en effet pu rendre moins perceptible ce sens. D'abord, parce que parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains, et j'entends les critiques. Ensuite, parce que nous avons vu aussi réapparaître des mœurs anciennes et le poison de la division, de l'instabilité.
Ah ça alors, Marion Mourgue, est-ce que vous y voyez une forme de, d'autocritique ?
Oui, mais c'est drôle, c'est la partie où il est le moins à l'aise dans l'interview. On a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains, son regard est un peu différent d'après, où il reprend plus de fermeté. Oui, il y a une sorte de mea culpa, de critique qui n'est pas facile. Enfin, on n'était pas habitué à cette critique chez Emmanuel Macron. Mmh. Et là, elle est assez claire, même à un autre moment de l'allocution. Il évoque ces 66 millions de Français qui font une nation, comme si c'était aussi l'idée de réexpliquer ce qu'il avait suggéré avec le premier de cordée et qu'on lui avait reproché.
Oui, Arnaud Benedetti, vous qui avez rédigé ce coup de com' permanent, cet ouvrage qui parle de cette communication-là, vous êtes d'accord avec ça? Il y a une forme d'un petit peu de moment de gêne ou de suspension avec le président?
Il y a une contradiction, si vous voulez, dans cette séquence, parce que il faut quand même se rappeler que toute la séquence du remaniement a été une séquence qu'on nous a présentée comme une séquence qui devait être finalement banalisée. Et puis là, vous avez tout d'un coup une allocution très officielle dans un format qui finalement est un format très classique, très traditionnel, qui est quelque part un format qui rappelle d'autres présidents de la République qui appartenaient, eux, véritablement à l'ancien monde. Il y a cette contradiction entre, encore une fois, la volonté qui a été en amont de faire de ce remaniement finalement un non-événement et puis tout d'un coup...
Pas toujours, il y a eu l'idée que ce serait un nouveau souffle, ils ont quand même balancé entre plusieurs versions.
Oui, mais en tout cas, l'idée, les éléments de langage étaient quand même plutôt des éléments de langage en disant, de toute façon, on va patienter, ça n'intéresse pas les Français, c'est un événement technique.
Est-ce que justement, moi je suis un peu étonnée, il y avait quand même un vrai scoop avec le gouvernement, et là, il l'a tué son scoop, c'est-à-dire que le sujet, on devrait tous être en train, on va peut-être le faire d'ailleurs, parler des nouveaux ministres, etc.
Ouais, nous allons essayer de le faire, oui.
Oui, on va essayer, mais il a repris ça et on est en train de commenter le président de la République, c'est ça qui va faire finalement les commentaires. Et je suis étonnée qu'il ait lui-même fait passer au second plan, alors il le voulait peut-être, son remaniement.
Sur la forme
Pierre,
quand même.
Pierre Jacquemin, vous êtes d'accord avec ce point de vue d'abord? Est-ce qu'il a tué son propre remaniement?
En tout cas, il envoie un message. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu un remaniement aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'allocution justement du Premier ministre devant les parlementaires, où il renouvelle sa confiance devant les parlementaires et qu'il se substitue justement en tant que président de la République, je suis le chef, c'est moi qui orchestrerai le remaniement et de toute façon, il n'y en a pas un plus que l'autre qui parlera au-dessus de moi, c'est moi qui donne le cap et c'est pas personne d'autre. Il y a aussi une forme de sa part, une forme de continuation justement, de continuité plutôt de je suis le chef, ça, tout part de moi et le pouvoir finalement il n'est pas tant que ça partagé et il assume avec cette allocution. Et on voit bien que justement dans cette espèce de feuille grignotée, un peu
gribouillée, légèrement gribouillée,
ça veut contrebalancer l'idée que tout ça a été préparé, prémâché et qu'il est presque de l'ordre de la spontanéité et qu'il dit avec ses tripes, son cœur, de manière solennelle, grave, nous sommes dans une situation qui n'est pas facile et on va continuer.
C'est normal.
Très intéressant ce que vous dites à l'instant, Pierre Jacquemin. Romain Mouton, je me tourne vers vous. C'est vous qui avez souligné le caractère quelque peu peut-être un brin précipité du script présidentiel. Malgré tout ça est quand même préparé, prémédité, selon vous.
Ah mais bien sûr, mais d'ailleurs, j'ai bien dit qu'il y avait deux options. Soit c'est qu'il n'a pas eu le temps, soit que c'est de la com', c'est-à-dire de faire croire que c'est spontané, c'est aussi de la communication. Par contre, je suis pas d'accord avec Pierre sur l'idée de dire qu'il a voulu empêcher le Premier ministre. Faire en sorte que le Premier ministre...
Pourquoi il ne se présente pas devant les parlementaires?
Mais parce qu'il n'y a pas de changement de cap, tout simplement. À partir du moment où on refait faire un discours de politique générale au Premier ministre, à partir du moment où on fait une annonce beaucoup plus solennelle avec le secrétaire général de l'Élysée qui vient sur le perron, que le Premier ministre va demander
ça aussi, ça a disparu. Hein.
Oui, que le Premier ministre va devant l'Assemblée
demander. À quoi sert cette intervention du coup? Alors, c'est ça la question.
Mais justement, on va être en perspective parce que comme le remaniement, il n'y a pas de changement politique sur le fond. Il y avait un moment où il fallait remettre en perspective l'action du gouvernement et c'était le moment pour le chef de l'État de le faire parce que le Premier ministre a parlé encore récemment sur France 2, donc il fallait bien expliquer et décrypter à un moment donné où.
Céline Masse.
Je rebondis sur ce que dit Romain. Je pense que comme le remaniement, il est très technique et pour la majorité des Français, c'est un non-événement. En réalité, il a besoin de redonner du relief et il commence son discours en disant « Je veux un contact direct avec vous ». Il parle bien aux Français. Il avait besoin de recréer cette passerelle-là. via cette allocution.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il poursuit les réformes.
Nous sommes toujours avec un président au fond.
Bah oui, c'est la bonne nouvelle. Moi, je suis désolée.
Les réformes qui ne sont pas négociées avec les syndicats.
Je trouve qu'il a un cap et il le poursuit.
Oui, poursuivez, poursuivez votre idée.
Oui, je dis que clairement, il a dit qu'il allait encore les accélérer. On a déjà quand même été surpris parce que je veux dire, il a battu du boulot quand même depuis qu'il est là et il va décider de poursuivre ses réformes. Il va les amplifier. Il a parlé des retraites. Moi, je trouve ça rassurant.
Marion Moore, pour clore cette
première séquence. Moi, je reviendrai juste sur le discours de politique générale. Il y a aussi une lecture politique.
C'est un discours de politique générale.
Non, sur le discours de politique générale du Premier ministre qui n'a pas eu lieu.
Qui n'a pas eu lieu, d'accord.
Justement, il y a aussi une lecture politique. C'est l'angoisse ou l'inquiétude qu'il y ait moins de parlementaires qui soutiennent la majorité. Et de fait, on le voit aussi avec ce remaniement, il y a moins de personnalités qui entrent.
Allez, suite de cette édition spéciale, dans un instant, c'est promis, hein, nous allons essayer de parler du remaniement parce qu'il a quand même eu lieu aujourd'hui. On se retrouve dans quelques minutes après la météo et le rappel de l'info.
Et si vous passiez à la Fibre Pro Orange pour développer votre activité?
Ben moi, avec Orange, ils m'ont installé la Fibre Pro gratuitement à la pizzeria.
Moi, avec la Fibre Pro, j'envoie mes plans 3D aux clients super rapidement.
Et moi, quoi qu'il arrive, j'ai une solution immédiate pour rester joignable et connecté, sans supplément.
Même pas un petit supplément mozza?
Avec Orange, bénéficiez d'un vrai accompagnement et de la performance de la Fibre Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr, en boutique ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Ici, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte. D'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac, pour Météo France.
Un temps plus calme sur le sud-est, sur la Corse, les averses parfois orageuses persistent. Cette nuit, ce sera le cas encore demain toute la journée avec un vent d'est soutenu. Du Roussillon à PACA, ce sera parfois pluvieux le matin, les pluies s'espaceront l'après-midi. Sur les basses plaines de l'Aude, des débordements restent possibles. Ailleurs, ce sera calme avec des éclaircies, un beau soleil sur un grand quart nord-est, Île-de-France et centre compris. Plus de nuages sur la façade ouest et même un peu de pluie sur le Finistère. Il fera 7 à 14 degrés le matin, 14 à 17 autour de la Méditerranée. L'après-midi, ce sera encore extrêmement doux entre le centre et l'est avec 23 à 25 degrés. Ailleurs, souvent 19 à 23 degrés et un peu moins sur le nord-ouest, 14 à 19.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Emmanuel Macron sur le service après-vente. Intervention enregistrée depuis l'Élysée tout à l'heure, quelques heures après le remaniement annoncé lui dans la matinée. Le chef de l'État droit dans ses bottes.
Je voulais ce soir m'adresser à vous pour vous donner le sens profond de l'action que j'entends poursuivre pour notre pays alors que nous venons de recomposer le gouvernement. Ces derniers mois ont en effet pu rendre moins perceptible ce sens. D'abord, parce que parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains, et j'entends les critiques. Je n'ai pour ma part qu'une boussole. C'est la confiance que vous m'avez donnée en mai 2017. C'est pourquoi il n'y a aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique. Ce dont vous pouvez être sûr, au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore.
Ni tournant, ni changement de cap ou de politique, donc déclaration d'Emmanuel Macron tout à l'heure, quelques heures après ce remaniement. Après deux semaines d'attente, donc le premier remaniement d'ampleur du quinquennat avec 8 nouveaux membres, donc Christophe Castaner à l'intérieur, avec Laurent Nunez comme secrétaire d'État, l'ancien patron du renseignement intérieur. L'Élysée vante une équipe renouvelée, un second souffle sans inflexion de la ligne politique. La France insoumise, au contraire, dénonce un rafistolage. Europe Écologie Les Verts dénonce tout ça pour Boursa et les Républicains à un remaniement qui ne servira à rien. Fin de citation. Dans l'actualité également, après les inondations meurtrières, l'Aude pense ses plaies et commence à évaluer l'ampleur des dégâts. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont fait au moins 12 morts. Il y a 2 disparus. L'épisode est maintenant quasiment terminé. L'alerte météo est levée. Plus de 70 communes ont été touchées. Les écoles, collèges et lycées rouvrent leurs portes demain dans tout le département, sauf à Carcassonne et Narbonne. Les images avaient suscité l'indignation. 4 personnes sont en garde à vue dans l'enquête sur le viol d'une jeune femme de 19 ans le mois dernier sur le parking d'une discothèque de l'agglomération de Toulouse. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par les auteurs. 3 autres personnes qui apparaissent sur la vidéo sont toujours recherchées. Enfin, Cesare Battisti va-t-il être extradé du Brésil vers l'Italie? Le favori du second tour de la présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro, promet en tout cas que s'il est élu, il renverra l'ancien militant d'extrême gauche en Italie, où il est condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour plusieurs meurtres. Il est 20h33, les informés.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info. Je vous le rappelle, nous sommes en édition spéciale à propos du remaniement, mais également et surtout l'allocution du président de la République Emmanuel Macron avec nos invités. Je vous le rappelle, Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, avec Céline Masse, directrice générale associée du cabinet d'études Occurrence, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, avec Romain Mouton, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil, et Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique et professeur associé à la Sorbonne. Je vous l'ai promis, nous allons enfin reparler du remaniement, ou du moins en parler tout court. Mais tout d'abord, nous allons réécouter un extrait de cette allocution, de cette intervention d'Emmanuel Macron qui évoque l'impatience des Français.
Alors je sais, mes chers compatriotes, qu'il y a de l'impatience. Et je la partage. Mais le temps que nous prenons est celui de nos institutions. Parfois, nous l'avons bousculé. Nous n'avons jamais différé une décision qui pouvait être prise. Et je ne peux reprocher au gouvernement d'avoir pris des décisions, même si celles-ci auraient dû être parfois prises il y a 10 ans ou 20 ans. Progressivement, j'en suis sûr. Votre quotidien va s'améliorer car le gouvernement est sur la bonne voie.
Pierre Jacquemin, est-ce que la formation de ce nouveau gouvernement répondra, selon vous, à l'impatience des Français ?
Moi, je pense que face à l'impatience dont il est question, il a démontré ce soir qu'il était dans une forme d'impuissance politique, d'impuissance de changer les choses. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce côté. Il a d'ailleurs prononcé une espèce d'anaphore où il disait tout le temps « il ne faut pas se soumettre », comme s'il était un insoumis, tiens, d'ailleurs. C'est lui l'insoumis, finalement.
Non, et
sur
pas,
la question de soumission,
ne pas se soumettre
aux puissances économiques du monde. Que dit-il quand il dit ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il mette en place, justement, un bouclier qui permette, justement, aux entreprises françaises d'exister. Et ce que vous dites tout à l'heure, de continuer les réformes, mais moi, je suis pour qu'on continue de réformer, par exemple, ne pas se soumettre aux puissances économiques du monde, c'est répondre politiquement en France à la question de Ford, par exemple, 800 emplois aujourd'hui qui sont menacés à Ford, parce qu'une décision américaine fait qu'aujourd'hui on préfère vendre une entreprise plutôt que de la laisser se faire racheter par une entreprise crédible qui est belge. Je fais une incise là-dessus, mais parce que ça montre aussi l'impuissance qui est la sienne. Il nous sort des grandes phrases comme ça, changer notre manière de produire, etc. Mais c'est quoi les réponses? Les réponses, elles ne sont pas présentes ce soir.
Marion Mourgue, est-ce que le remaniement, je répète ma question, vous répondez à votre façon, rassurez-vous, Pierre Jacquemin. Marion Mourgue, est-ce que, au fond, ce nouveau gouvernement répond peut-être à certaines, ou du moins aux attentes des Français, comme le dit le président de la République?
Bon, déjà, le gouvernement, l'exécutif avait créé une attente autour de ce gouvernement, parce que plus ils attendaient, plus on essayait d'avoir en effet un nouveau souffle. Oui, il y a une tentative de réponse à la colère des élus locaux, avec cette constitution d'un gros ministère où il y a Jacqueline Gourault et puis 2 autres ministres.
Et Sébastien Lecornu, qui est un homme en vogue, apparemment.
Et Julien de Normandie, chacun venant d'une sensibilité différente. Donc, il y a des messages qui sont envoyés.
Donc ça, c'est pour les élus locaux, ça.
Encore faut-il que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour l'instant, les élus locaux n'avaient pas l'air très satisfaits aujourd'hui, enfin, par quelques-uns. Mais il va falloir voir avec la Conférence nationale des territoires qui arrive bientôt si ça prend. Ensuite, il y a une petite tentative d'ouverture de cette majorité avec la nomination de Franck Riester, qui vient du centre droit. Et sinon, c'est plutôt la consolidation de la majorité.
Romain Mouton, ce nouveau gouvernement, c'est de la haute couture, j'allais dire, habituelle.
Rien d'extraordinaire, pas de grosse surprise, mais par contre, on voit déjà qu'il y a un signal pour les prochaines élections. Donc c'est Emmanuel Macron fait de la politique. En consolidant le Modem avec Jacqueline Gourault promue et en faisant rentrer Marc Fesneau et en s'ouvrant à agir avec Franck Riester.
Un agir, un Modem, un socialiste valsiste.
Oui, mais bon, c'est
très cuisine, hein, tout ça.
C'est très cuisine interne, mais c'est des gens qui pouvaient avoir des idées de faire des listes indépendantes. On pense notamment au centre droit, etc. Et d'accord. Chaque pourcentage va compter dans les élections européennes. Emmanuel Macron veut arriver en tête de ce scrutin, où pour le moment il est en tête dans les sondages. Donc, du coup, il voulait sécuriser ses arrières sur les élections européennes.
Sophie de Menton, ce nouveau gouvernement, selon vous, au fond, est-ce que ça n'est pas un énième gouvernement et tout ça va se diluer dans le quotidien des Français?
Si, absolument.
Dans la vie politique.
Absolument, mais je pense que c'est pas grave. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il parle de l'impatience des Français. Je crois que c'est la sienne. Il n'en peut plus. Le président de la République est terriblement impatient. Il a envie que ses réformes avancent. Et il y a quelque chose dont il a pris de la hauteur, alors que finalement, son problème, c'est le terrain. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons un pays aujourd'hui qui est impuissant devant les réformes. Nous avons une technostructure, nous avons des administrations, une complexité. Bercy, c'est un cauchemar. Personne ne comprend un mot de la fiscalité actuelle. Et donc,
vous croyez que ça va changer, ça, selon vous?
Alors, je crois que le président de la République le regrette infiniment. Il le dit, il le fait savoir, on l'a su. Et là, son impuissance, elle est là. Elle est là parce que il veut faire passer des réformes et ça prend un temps fou et c'est compliqué, etc.
Céline Mas, est-ce qu'il y a un ministère qui frappe votre imagination ce soir ou qui vous épate, tout simplement?
La culture, c'est bien.
Non, je trouve que c'est quand même, je le disais tout à l'heure, très politique. C'est un gouvernement de conquête d'élections avec les forces centrifuges qui reviennent, un peu de droite, un peu de gauche. On essaie de trouver un équilibre subtil. Mais les Français, pour eux, c'est pas ça qui va compter. Les études le montrent. C'est qu'est-ce que va faire ce gouvernement demain de différent. Et ce qui est, par rapport à ce que disait Sophie, c'est vrai que la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, c'était l'énergie, l'audace. Et il est quand même dans la Ve République, qui est une république.
Je vous sens assez critique sur ce plateau, relativement critique ce soir. Arnaud Benedetti, sur... Non, attendez, on va y revenir.
Mais sur le fond, c'est un remaniement qui ne va rien changer.
Beauvau qui perd les collectivités, c'est pas une très bonne chose.
La réalité, c'est qu'on est face à un remaniement faussement politique, qui est technique, fondamentalement, et qui est perçu comme tel. Et on sait d'ailleurs que les remaniements, d'ailleurs sur le fond, l'histoire des remaniements démontre que ça ne change rien, en général, sur la perception d'opinion. Que l'opinion peut avoir d'un gouvernement et de son action, et celui-là ne portera pas plus que les précédents. La réalité, c'est qu'on a créé une attente, vraisemblablement depuis quelques jours, voire depuis deux semaines, et une attente à laquelle, manifestement, on ne semble pas avoir répondu, parce que tout simplement, le remaniement, soit il incarne une nouvelle ligne politique, et on nous a dit dès le début que, de toute façon, il n'y aurait pas de nouvelle ligne politique, et le président de la République vient de le confirmer, ou soit c'est un remaniement d'ampleur, et ce n'est pas un remaniement d'ampleur, c'est pas les quatre secrétaires d'État qu'on a fait rentrer au gouvernement et le débauchage d'un parlementaire d'agir qui change quelque chose à la configuration générale de ce gouvernement et à sa perception.
Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Une petite dizaine de minutes d'allocution ce soir pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est exprimé depuis l'Élysée quelques heures après l'annonce du remaniement du gouvernement. Pas de changement de cap annoncé. La nouvelle équipe doit poursuivre les transformations dont le pays a besoin, a souligné le président de la République. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, évoque une tentative d'intimidation politique. Plusieurs perquisitions ont été menées ce matin dans les locaux du parti de gauche, dans ceux de son parti et à son domicile. La justice enquête sur le financement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur des soupçons d'emploi fictif d'assistant au Parlement européen. Il n'y a aucune instruction individuelle donnée à un procureur, a réagi le Premier ministre. Le gendarme Daniel Nivelle, distingué par l'Allemagne, il s'est vu remettre la croix de chevalier de l'ordre du mérite. Vous êtes un exemple, a souligné le ministre des Affaires étrangères allemand qui lui a remis cette décoration. Lors du mondial de football 98 en France, Daniel Nivelle avait été grièvement blessé par des hooligans allemands à Lens. Le football sur le terrain, c'est ce match France-Allemagne ce soir en Ligue des Nations. Le coup d'envoi doit être donné dans 5 minutes maintenant. 10 des 11 joueurs titulaires pour la finale de la Coupe du Monde en Russie seront sur la pelouse du Stade de France à Saint-Denis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors cela a été relevé sur ce plateau tout à l'heure, le chef de l'État a parlé au fond de l'esprit français, ne pas se soumettre, a-t-il dit. On l'écoute.
Je sais que l'esprit profond
du peuple français a toujours été de ne pas se soumettre. Ne pas se soumettre à la tragédie écologique et faire des choix clairs et profonds pour changer notre manière de produire, de nous déplacer, de nous alimenter. Là aussi, il ne s'agit ni de dénoncer une tragédie, ni de rester dans l'immobilisme, mais de prendre des décisions profondes, inédites. Le gouvernement a commencé ces derniers mois. Et dans les semaines à venir, il aura des décisions structurantes et historiques à prendre.
Ah, suspense donc, Marion Mourgue, ne pas se soumettre, prendre des décisions inédites. Qu'est-ce que c'est que ce discours ? C'est l'heure est grave, c'est ça ?
L'heure est grave et il le répète à plusieurs reprises. La situation n'est pas normal sur le plan historique. C'est un contexte particulier, sous-entendu depuis son élection et au niveau national, européen et mondial. Donc c'est l'idée que voilà, il y a cette période particulière et qu'il faut donc accompagner ces réformes pour traverser.
Et est-ce qu'il n'y a pas Sophie une Menton. Allusion à Houellebecq, au livre Soumission aussi, parce que ce mot soumission est très fort. On y voit peut-être une allusion à ça. Et puis par ailleurs, moi je me demande aussi s'il n'y a pas une forme de défense. Les Français n'ont pas l'habitude de se soumettre, mais ils ne se soumettent pas non plus tellement à Macron. Enfin je veux dire, il est difficile, c'est un pays divisé, qui réagit très fortement lorsqu'il y a des réformes, qui quand même est un pays difficile à gérer. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce double alors, sens, cette soumission ?
Arnaud Benedetti, je ne sais pas, hein, peut-être vous faites appel à notre imaginaire ce soir, mais Arnaud Benedetti, est-ce que vous y voyez une forme de dramatisation ce soir ? Au fond.
Vraisemblablement, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est complètement d'abord dans l'action et qu'il est à la hauteur des enjeux auxquels est confrontée l'Europe. On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, l'Europe est confrontée quasiment au défi de son éclatement, ce qui n'est pas arrivé depuis finalement le traité de Rome 1957 sur une question
qui est la question
migratoire.
Il dit qu'elle bascule partout
vers
les extrêmes.
Il y a une volonté de dramatisation, mais qui s'explique aussi dans sa stratégie électorale. Il est en train d'essayer d'imposer une scène actuellement politique en vue des européennes entre d'un côté les progressistes dont il serait finalement le représentant et les populistes qui seraient finalement une grande partie de ceux qui contestent sa politique. Donc il y a bien évidemment à partir du moment où vous réduisez la scène politique à cette offre politique indéniablement une entreprise qui consiste à dramatiser votre présentation des faits et de la réalité.
Alors Romain Mouton à l'instant Sophie de Menton évoquait la soumission sous toutes ses formes, Arnaud Benedetti, une forme de dramatisation. Est-ce que, selon vous, c'est un petit peu derrière tout ce discours l'Europe qui est en ligne de mire ?
Une chose est sûre, c'est qu'il prépare la campagne des européennes, on vient d'en parler. Mais il met aussi, il pointe les institutions. Il a dit que le temps dépend des institutions. Comme si finalement, il y avait une forme de soumission involontaire aux institutions de la Ve République qui font que lui voudrait aller plus vite. D'ailleurs, il pourrait utiliser les ordonnances, par exemple, ou d'autres techniques. Il voudrait aller plus vite, mais il y a ces institutions qui l'empêchent d'avancer. Donc il y a aussi un contraste dans son discours en remettant la faute sur les institutions et sur les décisions historiques. Utiliser le mot « historique » en parlant de décision, c'est quand même un teasing assez fort et il met la barre assez haute parce que ça veut dire qu'on s'attend à des grosses décisions.
Pierre Jacquemin,
je partage ce que vient de dire Monsieur Mouton. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi.
Romain,
pardon, ça m'a échappé, désolé.
Romain Mouton.
Je partage parce que c'est à mon avis le cœur de la monarchie, pardon, de la Macronie.
c'est la conscience qui parle.
Attention, pas tous en même temps.
Mais parce que justement, le cœur de la Macronie, c'est aussi un système qui repose sur des ministères qui sont dépolitisés. C'est-à-dire qu'on a privilégier des techniciens sur des ministères. Et c'est là où je partage pas tout à fait votre analyse, Sophie de Menton, parce que justement, je crois pas qu'il est qu'il en a conscience, mais il pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui décide et c'est l'administration qui est à la tête du ministère et qui met en place les politiques. Le voit avec les nominations. Parmi les nominations, un Franck Riester, par exemple, si je crois pas me tromper, c'est un énarque. La nomination de la secrétaire d'État. Non, il est pas énarque. La secrétaire d'État, en revanche. La secrétaire d'État, en revanche, Emmanuel Wargon, qui arrive au ministère de l'écologie, est une énarque qui, par ailleurs, encore une fois, en termes de signal envoyé sur la question écolo, est quand même un mauvais signal. Alors, elle est quand même dans une entreprise Danone, qui est une entreprise française qui épuise de plus l'écosystème aujourd'hui au monde. Donc,
Emmanuel Wargon, elle a montré à la tête notamment du cabinet de Martin Hirsch que c'était une femme qui était hyper engagée sur les sujets de société, sur les sujets écologiques. Chez Danone, elle n'était pas à la tête de Danone, elle avait une direction.
Danone fait partie des 25 entreprises françaises les plus énergivores, en tout cas qui épuisent de plus l'écosystème.
C'est trop facile de dire qu'elle est passée par le privé, donc ce sera une mauvaise ministre. ministre, c'est une experte de ces sujets-là. Elle a démontré par tous ses postes dans son passé qu'elle avait un engagement écologique fort. Alors, donc je pense que c'est plutôt un atout que forcément un inconvénient.
Céline Masse, avec un Christophe Castaner proche des plus proches d'Emmanuel Macron à l'intérieur, avec une Jacqueline Gourault, ex-sénatrice, éminemment politique sur les territoires pour les élus locaux, avec d'autres nominations encore. Vous évoquiez à l'instant Pierre Jacquemin, Francky Ester, mais Francky Ester est un véritable carriériste en politique, comme d'autres, comme tant d'autres. Est-ce que...
Oui, il n'est pas énarque du tout, d'ailleurs, il vient du milieu.
Non, mais peu importe, c'est pas grave. Céline Masse, est-ce que nous ne sommes pas face quand même à la constitution d'un gouvernement très politique?
Oui, absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans la politique, dans la technique, dans la conquête électorale, dans la loyauté au président, dans certains cas... notamment Christophe Castaner, qui a un poste extrêmement stratégique maintenant. Je veux revenir une seconde sur la soumission. Je pense aussi qu'il y a eu la marche pour le climat samedi. Et il en parle, et c'est très important, parce que les citoyens se saisissent de ce sujet qui est essentiel pour l'humanité, pour le lendemain du monde. Et je pense que c'est aussi une manière de dire « je comprends ». Que vous, citoyens, vous saisissiez de certains sujets qui sont essentiels pour nous demain. Et je crois que c'est important aussi dans son approche.
Et Marion Mourgue, quand le chef de l'État évoque des, alors je le cite, des décisions qui seront inédites, profondes, à quoi pense-t-il, selon vous?
Alors là, il va falloir attendre un peu. C'est peut-être justement la question environnementale.
Mais juste des ordonnances, comme le disait Romain Mouton.
Juste un point sur le remaniement.
La réforme de l'État.
On peut dire que c'est politique, on peut dire que c'est technique. Il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est qu'en un an et demi, la situation d'Emmanuel Macron sur le plan politique fait qu'il n'arrive pas à attirer à lui de nouvelles personnalités qui viendraient notamment de la droite. Or, ils ont cherché à avoir ces personnalités. Et la situation politique fait que c'est plus très attractif ni à Trion d'être ministre aujourd'hui d'Emmanuel Macron. En un an et demi, ça arrive sous tous les quinquennats, mais en un an et demi, c'est quand même très rapide.
Arnaud Benedetti, dans la liste des ministres que nous avons sous les yeux, François de Rugy occupe la première position des ministres. Il est ministre d'État et de la transition écologique et solidaire. Oui. C'est le seul ministre d'État. Est-ce que ça a une signification particulière?
De laisser en tout cas François de Rugy comme ministre d'État à la transition écologique, ça signifie que l'écologie reste une priorité après le départ de Nicolas Hulot. Ça veut dire ça, politiquement, symboliquement. Ça, c'est important. Mais je rejoins ce que vous dites. En effet, le problème de son remaniement, c'est que il se voulait quand même porteur de l'attractivité du macronisme, c'est-à-dire réussir encore à puiser, à élargir, si vous voulez, les frontières du macronisme à d'autres forces politiques. Manifestement, il n'y est pas arrivé. Il a, certes, encore une fois, réussi à faire venir un ancien valsiste et un député, le président du groupe parlementaire d'Agir, mais c'était des gens qui étaient déjà dans l'orbite du macronisme. Il n'a pas réussi à étendre plus loin les frontières du macronisme.
C'est une difficulté.
C'est une difficulté.
Ou à réveiller les députés.
Il y aura des républicains.
Pas tous en même temps. Sophie,
il n'a pas réussi. Il a essayé de faire venir des socialistes. Il
est pas d'abord, on a surtout une gauche en décomposition. Qu'est-ce que c'est qu'un socialiste aujourd'hui? Je ne sais pas. Et à droite, on est en décomposition aussi. Oui. Donc, on a viré, il y a les extrêmes, etc. Donc, ça veut dire quoi, attirer? Ensuite
non,
de ça,
oui,
prenez les vieux de la vieille, et personne n'avait envie de vieux de la vieille. Finalement, on aurait dit, tiens, c'est de la vieille politique. Donc, il prend des nouveaux, on dit, tiens, ce sont des nouveaux. Je pense que c'est assez injuste. Attirer ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Qui avait-il envie d'attirer?
Il y avait quand même des personnalités à droite.
20h50 sur France Info, nous terminerons ces informés évidemment en évoquant cette allocution du chef de l'État et ce remaniement qui a eu lieu aujourd'hui. Mais tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Le chef de l'État Emmanuel Macron appelle à poursuivre les réformes entamées. Le président de la République a été ce soir face aux Français pour une allocution radio-télévisée enregistrée depuis l'Élysée. Cette intervention intervient quelques heures après le remaniement ministériel. Pour Emmanuel Macron, le gouvernement est sur la bonne voie. Coup d'éclat dans le procès autour de la mort d'Hélène Pastor, tuée à Nice en mai 2014. L'avocat du gendre de la milliardaire, l'un des accusés dans cette affaire, révèle aujourd'hui que son client a bien commandité l'assassinat de sa belle-mère. Dans son box, Wojciech Janowski s'est effondré depuis le début de l'audience, mi-septembre. Il niait les faits. L'Aude pense ses plaies après les fortes pluies tombées depuis la nuit de dimanche à lundi. Ces intempéries ont fait 12 morts, 9 blessés, 2 disparus, frappé plus de 70 communes. Demain, les
établissements scolaires de l'ouest de l'Aude, qu'ils soient publics ou privés, vont rouvrir leurs portes aux élèves. Ceux de Carcassonne et Narbonne restent fermés. Alain Goma est libre. Ce navigateur français était retenu depuis plus de 4 mois et demi maintenant au Yémen par les rebelles Houthis. On ignore encore les conditions de sa libération. Alain Goma se trouve actuellement dans un avion pour le sultanat d'Oman, indique la sœur de l'ex-détenu.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
À peine nommé, Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, s'est déplacé au Lila à la rencontre des forces de l'ordre. C'est en Seine-Saint-Denis, là où un adolescent de 13 ans a été tué ce week-end dans une rixe entre bandes rivales. Écoutez ce que dit Christophe Castaner.
Il y a un phénomène nouveau qui se produit et nous avons souhaité aussi être aux côtés de nos forces. Un phénomène nouveau qui est celui, au fond, de la mise en cause de l'autorité. Et la mise en cause de l'autorité, elle peut se faire par des mots, mais elle peut se faire aussi par des actes de violence contre les femmes et les hommes qui, dans ce pays, doivent garantir la sécurité. Et nous avons souhaité aussi porter ce message d'accompagnement au quotidien.
Marion Mourgue, faut-il y voir une sorte de symbole, le premier déplacement de terrain? Eh bien, c'est Christophe Castaner qui se rend au Lila, c'est au cœur de l'actualité.
Oui, peut-être, mais en même temps, on a un autre symbole qui est la position du ministère de l'Intérieur dans l'ordre gouvernemental et qui passe de la 2e place à la 11e place. Alors, en termes de symbole, je pense que celui-ci est plus criant.
Pierre Jacquemin, vous y voyez une forme de dégradation du rôle du ministre de l'Intérieur?
Je pense qu'il y a un affaiblissement effectivement aujourd'hui de la fonction de Beauvau et du ministère de l'Intérieur. D'abord parce qu'on nous avait promis un Blanquer, même si on n'a pas forcément tous la même estime sur le personnage, mais on nous avait promis un Blanquer de l'Intérieur. On est loin du Blanquer de l'Intérieur au ministère de l'Intérieur.
C'est Richard Ferrand qui disait ça.
Oui, et aujourd'hui effectivement on a donc un proche d'Emmanuel Macron qui arrive sur un ministère où on sait que ce sont des ministères qui potentiellement peuvent être des tremplins pour la suite. Emmanuel Macron a fait un choix d'un fidèle dont il lui fera visiblement pas beaucoup d'ombre. Certes, il est accompagné d'un secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui a fait ses preuves visiblement pour être là où il est. Mais quand même, la fonction aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, dans un contexte où il y a un besoin de sécurité, il y a une nécessité de renforcement justement des équipes et qu'il y ait un vrai pilote à la tête de l'avion, en tout cas du ministère, aujourd'hui, Castaner ne va certainement pas faire la police ou en tout cas assurer ces fonctions-là. On sait que derrière ce poste-là, il y a une fonction plus politique, qui est celui du redécoupage de la carte électorale dans le cadre de la réforme des institutions. Et que donc, c'est quand même dommage que pour des raisons politiciennes, aujourd'hui, on se retrouve avec un ministre de l'Intérieur qui n'assurera pas ses fonctions.
Céline Masse, vous y voyez une forme de déconstruction du rôle éminent du ministre de l'Intérieur?
Non, pas du tout. Non. Moi, je ne partage pas ça. Je pense que Christophe Castaner, il a aussi des qualités de terrain pour ce rôle. Il va être secondé par Laurent Nunez en technicien et je pense qu'il peut amener une sorte de nouveauté en fait dans l'incarnation de ce rôle. À voir, mais au contraire, je pense que ça peut être assez audacieux.
Arnaud Benedetti, on a tous répété le cliché, c'est le retour de Pasqua Pondro, c'était la première cohabitation, si mon souvenir est bon.
Ça y ressemble furieusement, sauf que l'histoire de Castaner et l'histoire de Pasqua n'est pas tout à fait la même, et même celle de M. Nunez et de M. Pondro ne sont pas les mêmes, ce sont d'autres générations, mais on voit bien que, en tout cas, c'est ce schéma politique avec un ministre de l'Intérieur très politique, très proche du président de la République que l'on promeut, et un secrétaire d'État technique qui est capable de prendre en charge toute la technicité liée quand même à la gestion du ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que, là aussi, c'est que finalement, on a envie de dire que tout ça pour ça, c'est-à-dire que on voit bien que derrière ce remaniement, et pour reprendre ce qu'on disait vis-à-vis d'Edouard Philippe, c'est que on sent bien que il y avait la volonté quand même d'Edouard Philippe d'imposer un autre nom au ministère de l'Intérieur, qui était Gérald Darmanin. Donc on sait très bien que là aussi, ce choix, c'est un choix qui est imposé au Premier ministre. Et ce qui explique peut-être aussi le fait que Monsieur Castaner se retrouve seulement à la 11e place ou la 2e place dans l'ordre protocolaire.
Romain Mouton, il va falloir redéfinir un petit peu quand même les périmètres. Qui fait quoi au fond? Parce que ce ministre de l'Intérieur n'a plus les élus locaux, les territoires, l'aménagement du territoire, comme disait Jadis dit ce monsieur Charles Pasqua?
Alors, les collectivités territoriales n'étaient déjà plus officiellement dans le giron du ministre de l'Intérieur. En tout cas, c'était plus dans l'intitulé du ministre. Pour répondre à Pierre, moi, je suis pas d'accord sur le fait que il a été rétrogradé, mais il aurait été numéro 2 du gouvernement. Vous auriez dit, c'est un gouvernement 100% police, et donc c'est la priorité à la police. Donc ça, je suis pas d'accord avec vous. Et sur Arnaud, sur l'histoire du Premier ministre, redéfinir la réalité, c'est que les gouvernements successifs ont prouvé que le choix revient au président de la République. Édouard Philippe a réussi à faire rentrer Franck Riester, qui était l'un de ses proches, donc il a marqué son territoire, et finalement, dans les nouveaux ministres, il y a une forme d'équilibre entre les proches du Premier ministre et les proches du président de la République. Ils arrivent à trouver un entente, visiblement.
Allez, il nous reste une poignée de secondes pour clore cette émission. Sophie de Menton, vous avez la sensation que les entreprises ont été un petit peu mises entre parenthèses.
Je signale
à tous ceux qui nous écoutent, il faut faire vite. Vous portez un très beau t-shirt. J'aime ma boîte.
Non, parce que c'est quand même fondamental.
Et vous distribuez des tracts sur le plateau.
C'est vrai que c'est un gouvernement pro-entreprise. C'est un gouvernement qui a essayé de retrouver la croissance en favorisant l'économie. En deux mots, le jeudi 18 octobre, c'est la 16e fête des entreprises, sous le slogan « J'aime ma boîte ». Et c'est très important parce que le fait d'être bien dans sa boîte, d'être bien dans son entreprise aujourd'hui, a pris une véritable dimension sociétale. Donc fêtez tous les entreprises jeudi.
Marion Mourgue à la une du Figaro demain.
On revient sur l'allocution d'Emmanuel Macron et le remaniement.
Merci à vous Marion Mourgue, Céline Masse, Sophie de Menton qui nous a fait son petit écran de pub, Pierre Jacquemin, Romain Mouton et Arnaud Benedetti d'avoir tous les six participé à cette édition spéciale. Pour ma part, je vous retrouve avec bonheur demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.